I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La course à pied peut-elle nous sauver la vie? C'est ce que pense mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, c'est une belle rencontre et une belle leçon de vie. Mais avant, si vous voulez avoir des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une petite page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit et c'est à l'adresse bertrandsoulier.com/bonus. Bien entendu, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, je vous propose une belle histoire de famille. Famille qui a S, car elle relie deux familles. En regardant les photos de Jean-Charles, sa forme, son grand sourire, en écoutant son sourire aussi dans cet épisode, vous n'imaginez peut-être pas l'épreuve qu'il a vécue il y a 10 ans. En tant que papa, ma plus grande peur est de perdre ma fille. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Charles. Son fils Hugo aurait dû avoir 10 ans s'il n'était pas mort au bout de quelques mois d'une maladie génétique incurable, extrêmement rare. Les 2 et 3 avril, Jean-Charles va courir, pratiquement comme tous les jours, car Jean-Charles dit que la course lui a peut-être sauvé la vie. Au moment d'affronter cette mort, il a choisi de courir plutôt que de prendre des médicaments. Et les 2 et 3 avril, il va courir 24 heures en mémoire de son fils. Et aussi pour aider un autre petit garçon qui est dans la classe de sa fille et qui est atteint d'une autre forme de cette maladie. Deux familles autour d'un seul projet, mais pas seulement. Jean-Charles ne va pas courir seul, il invite celles et ceux qui veulent courir ou marcher à le rejoindre, pas forcément 24 heures. Et c'est toute une commune et ses habitants, ses entreprises, qui vont vivre au rythme de cet événement et qui se mobilisent. J'ai invité Jean-Charles à venir nous parler de cette aventure dans un épisode Dernier Ravito, dans lequel nous avons un peu refait le monde autour de la course à pied. Son parcours de sportif, pourquoi il court, courir dans la nuit, prendre des photos, ses objectifs, sa manière bien à lui de fixer le temps qu'il va mettre sur un trail, comment il organise cet événement bien sûr, la solidarité qui se met en place et comment on peut les aider. Le sourire de Jean-Charles s'entend, à bientôt 50 ans, il arpente les chemins et s'imagine lui aussi devenir chevillard galopant au milieu des chamois. J'ai passé un très bon moment avec Jean-Charles et j'espère que vous passerez un très bon moment avec nous deux. Allez, c'est parti. Bonsoir Jean-Charles.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Et toi?
Eh ben écoute, mis à part un petit problème de voix qui j'espère ne va pas trop s'entendre aujourd'hui, on en discutait là, juste avant de commencer l'enregistrement, j'espère que je n'aurai pas trop de toussotements, etc. avec ma voix, là, une espèce de bronchite qui a fini par s'installer. C'est la hantise des podcasteurs, hein, ce genre de choses. Mais bon, hein, ça va pas nous empêcher de discuter ensemble parce que t'as un très beau projet dont on va parler aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots et puis ensuite on parlera un petit peu plus de ce que tu prépares.
Ok. Eh ben moi c'est Jean-Charles. Donc je vais avoir 50 ans cette année au mois d'avril. Je suis un ancien rugbyman. J'ai fait aussi du jujitsu. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai 4 enfants. Un de 26, de 24, de bientôt 9, et le petit dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui devrait avoir 10 ans, et une autre grande de 11 ans.
Donc, tu l'as dit, hein, sur les enfants, il y aura quelque chose, on va en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment le cœur des choses. Mais ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu d'abord de ton. Tu as dit que tu as fait du rugby. Alors, je ne sais pas. Mais il y a un truc en ce moment, j'ai plein d'invités qui me disent j'ai fait du rugby. Alors moi je me pose toujours la question, comment on vient de jujitsu, rugby à course à pied? C'est quoi le parcours?
Bah moi dans le rugby j'étais pas le gros qui bourre, hein. Moi c'était le petit nerveux qui court, j'étais sous les ailes. Et bah comme on va en parler un petit peu tout à l'heure, j'ai tout arrêté le rugby pour mon fils. Pour pouvoir être un peu plus présent auprès de lui. Et la course à pied m'a vraiment donné les ailes pour pouvoir évacuer ma tête, pour pouvoir aller de l'avant. Et ben, j'ai jamais lâché. Et j'y suis resté.
Mais ça veut dire que tu as joué au rugby longtemps, en fait.
Longtemps, non, non, ça n'a pas été de très longues années, mais quelques années pour pouvoir me défouler, pour pouvoir avancer dans la vie et jusqu'à cet obstacle.
Est-ce que tu dis quand même, tiens, on va parler de rugby quand même, allez, 5 minutes. T'as même pas dit d'où t'étais en fait.
Je suis de Franche-Comté, je suis juste à côté de Morteau.
Et
Ça
attends,
se
tu joues au
situe
rugby en
entre Montbéliard et
Franche-Comté?
Besançon. Oui, j'étais à un tout petit club qui s'appelle Cernay-l'Église, qui est à côté de Mèche. Rugby Club Pays Méchois, on va en faire un petit coup la pub.
Bah, t'as raison, mais t'as raison.
Qui cherche toujours beaucoup de joueurs, c'est toujours aussi compliqué. Et bah voilà, on était une petite équipe bien sympathique, où j'ai fait quelques années. Mon fils a fait quelques années aussi. Et voilà.
Ouais, c'est vrai que moi, dans ma tête, le rugby en Franche-Comté, c'est pas un truc qui doit être vraiment le sport le plus populaire. En plus, je me dis que l'hiver, quand même, ça doit pas être simple comme ça. Mais bon, après, le rugby se développe un peu sur tous les territoires français, hein, contrairement, même n'en déplaise à ceux du sud-ouest qui pensent que c'est toujours leur sport à eux, hein, voilà, honnêtement. Et c'est pas en Auvergnat, tu vois, moi je peux te dire, hein, quand même, vive le rugby quand même, hein, parce que, voilà. Mais et donc, t'étais un petit nerveux sur les ailes, là, comme ça, et t'aimais courir à l'époque?
Ah oui, ça a toujours été mon truc, courir. En étant dans les petits villages en Franche-Comté où j'habitais, où je suis né, on était à peine 200 habitants. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Donc la moindre chose, bah, tu prends le vélo ou bien tu prends tes jambes. Donc souvent tu coupes par la forêt, tu arrives beaucoup plus vite dans les villages d'à côté. Et puis ben, quand tu es pressé, ben, tu n'as pas le choix, tu cours. Et c'était une distraction qu'on avait comme une autre.
C'est drôle, on dirait un Kényan qui parle. Tu sais, c'est l'histoire des gamins kényans qui allaient à l'école comme ça, qui doivent
D'un
faire du
village
sport le
à
matin,
l'autre.
du sport le soir pour aller à l'école, etc., qui couraient et qui sont devenus champions.
Non, moi j'en suis bien loin. Et puis non, non, Kényan, non, on n'a pas de soleil là, malheureusement. Surtout en Franche-Comté.
Ouais, c'est-à-dire que là, en ce moment, je sais pas, en Franche-Comté, les forêts doivent être un petit peu gelées, etc. Donc, on n'est pas trop dans
Ah oui.
l'ambiance kényane. Mais c'est marrant. Non, mais enfin, les gens, il y a plein de gens qui imaginent pas, parce que tu sais, j'ai fait même des épisodes avec François Carré, qui est un cardiologue très connu, qui dit que maintenant, les gamins ne vont plus à l'école à pied, qu'ils y vont en voiture, qu'on les dépose devant, etc.
Ouais.
Là, ce dont tu parles, il y a plein de gens qui ne le connaissent assez peu, cette histoire-là, finalement.
Oui, bien sûr. Oui, nous, on n'avait pas les bus qu'il y a aujourd'hui. On n'était pas servi comme tout ce qui se fait aujourd'hui. Même nous, nos enfants aujourd'hui, ben, on les laisse pas dans l'école. Mais c'est parce que c'est leur choix. Elles ne veulent plus en grandissant. Mais autrement, ouais, on les amène un peu partout, jusque devant la porte, malheureusement. Mais elles marchent quand même beaucoup. Ça,
Ouais.
avec nous, elles marchent beaucoup.
Bah écoute, ça c'est un bon truc. Ça faisait partie. Hein. Alors, l'épisode avec François Carré dont je parle, c'est dans Sport et Nutrition, pour ceux qui auraient perdu un peu le fil. Parce que moi j'ai le fil de tous les épisodes. Quasiment, la toile se dresse devant moi, donc j'y vois à peu près où ils sont. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu. Mais on parlait de la sédentarité. J'ai vu une stat aujourd'hui. 95% des Français sont trop sédentaires. Et ça pose des problèmes de santé, de maladies, etc. Et ça s'améliore pas à cause des écrans, des confinements, etc.
Ah oui.
Donc c'est un vrai sujet. Sujet fort, un vrai sujet très important. Mais bon, on va pas parler de ça ce soir. On va vraiment parler de ton projet parce que il faut qu'on en parle. Ça se passe quand déjà? Déjà, tu vas nous placer à quel moment ça se passe? Et puis déjà, dès le départ, on va dire comment est-ce qu'on peut te soutenir?
Alors, bah, ça se passe le 2 et le 3 avril. Donc, ça s'approche à une vitesse grand V. Et ce sera un 24 heures. À 24 heures, qui va se dérouler donc à Morteau même, où il y a deux parcours, on peut dire. Il y a un parcours sur macadam qui est de 800 mètres, et un autre parcours qui sera au départ, si le terrain de foot n'est pas inondé, parce que chez nous ça arrive encore assez souvent, qui se déroulera, qui fera à peu près 1,3 km entre les terrains de foot et de rugby.
D'accord.
Donc, ce qui va pouvoir nous permettre de pouvoir allonger, et surtout pour les trailers comme moi, de ne pas en avoir plein les chevilles, les genoux sous le macadam, parce qu'on n'est pas habitué.
Attends, donc il y a une boucle de 800 mètres. Et une boucle d'un
Oui.
kilomètre.
Oui, un peu plus d'un kilomètre, c'est ça.
Je suis en train de. Alors, je suis très très nul en maths sur l'histoire, mais tu penses la faire combien de fois ta boucle?
Oh, bah alors là, ça va être. J'ai même pas compté quand j'ai fait mes entraînements. J'ai même pas regardé. Je sais que j'ai fait en 6h30 L'un de mes tout premiers entraînements, j'ai fait 64 km. Mais ce n'était pas au même endroit. Là, j'avais fait à Villers-le-Lac, qui est où on a notre terrain d'athlétisme. Et c'est là que j'ai fait le premier test, voir si j'étais capable de pouvoir tenir.
Et donc, il faut le dire, donc tu le répètes, tu as fait un test de 6h30 pour voir comment ça se passait de tourner comme ça et tout. Et alors, en plus, tu m'as envoyé un article là où tu dis que tu as fait ça tout seul dans ton coin. Là, t'as dit ça à personne, quoi.
Voilà, en gros, j'ai dit à ma femme, je vais aller courir. Bon, elle a l'habitude, c'est chose courante. Et je suis parti au terrain de Cernay. J'avais quand même deux ou trois personnes où j'en avais vaguement parlé et puis ils m'ont dit ah, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et je suis parti, j'ai couru pendant 6h30 voir ce que ça donnait. Et puis j'ai vu que ça allait. Puis à la fin, j'étais super bien. Donc j'en ai parlé un peu plus autour de moi qui m'ont dit ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, c'est parti comme ça.
Voilà, comme ça. Allez, maintenant j'ai fait 6h30, je peux faire. Enfin, on peut dire que ça va être 24 heures facile. Hein ?
Non, loin de là. Loin de là.
Parce que comment tu prévois ta logistique, en fait, dans cette histoire de courir comme ça, tu te dis je vais courir 24 heures. C'est même pas autour de ta maison.
Non.
Donc, t'as quoi comme logistique dans l'histoire ?
En logistique, c'est-à-dire au niveau de quoi ? Au niveau nutrition, au niveau...
Est-ce que tu penses dormir un petit peu ? Est-ce que t'as des endroits
je
pour mettre au chaud ?
Oui. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la commune de Morteau qui me soutient. Et qui nous a mis à disposition la salle des fêtes, qui est juste devant le parcours qu'on va utiliser, et qui va nous permettre de pouvoir nous mettre au chaud au cas où. Parce qu'à l'heure actuelle, comme par exemple maintenant, il fait encore 0 degré ici, demain matin, je pense qu'il va faire moins 5. Au mois d'avril, on n'est pas à l'abri de tout ça encore, voire même de la neige.
Bah oui.
Donc il a fallu prévoir un petit peu le tout. Et oui, on a un peu. J'espère qu'on a prévu un maximum pour pouvoir se réchauffer, du bouillon, pour pouvoir se réchauffer aussi en alimentation. On pense avoir pensé un petit peu à tout. Bon, j'ai beaucoup de chance de faire partie d'un club de trail, donc le DSA, qui veut dire Doux Sud Athlétisme, qui me permet d'avoir quand même de bons conseils par rapport aux gens d'ici qui ont l'habitude de courir depuis des années et des années.
Alors, tu le dis, il y a deux parcours. C'est-à-dire que toi, tu vas courir, mais ceux qui veulent venir courir, ils peuvent venir courir.
Tout le monde peut venir courir, soit seul, comme moi je vais le faire, ou en équipe. Donc, je vais mettre des abris pour pouvoir, ceux qui veulent le faire en équipe, qu'ils puissent mettre leurs affaires, pour pouvoir, il y aura la salle pour se mettre au chaud, pour ceux qui veulent dormir, etc.
D'accord. Et il faut le dire, c'est pas une course que tu organises, t'es pas organisateur de course.
Non, pas du tout. Non, c'est. On va peut-être expliquer le pourquoi du
et oui.
au départ.
Et oui.
Parce que là, on parle du projet, mais on n'a pas dit le pourquoi.
Oui, mais c'est que là, on a commencé à mettre un petit peu l'eau à la bouche de certains, etc. Et maintenant, on va expliquer, on va rentrer dans le cœur des choses, parce que c'est un sacré projet et quelque chose qui est vraiment fort humainement et dont on va parler. Mais il faut rappeler un petit peu et tu vas nous expliquer en fait pourquoi. Quel est le grand pourquoi ? Parce qu'il y en a qui chargeaient le grand pourquoi. Pourquoi courir et organiser cet événement-là, en fait ?
Ben voilà. Donc, comme je disais, j'ai perdu un enfant qui devrait avoir 10 ans. Et je me disais, je veux faire quelque chose pour pouvoir, en sa mémoire. Et ma fille, Andrea, qui va avoir 9 ans, a un petit garçon dans sa classe qui a la même maladie qui a emporté mon fils.
D'accord.
C'est pas le même type. Donc, c'est pas les mêmes dangers pour ce petit gamin. Mais voilà, c'est touchant. Et je voulais absolument faire quelque chose. Et grâce à toi, quelque part, avec tes podcasts, j'ai entendu parler des 24 heures. Je me disais, comment est-ce que je peux le faire? Un trail, c'est compliqué. En plus, le DSA, dont je fais partie, en organise un au mois de mai. Donc, on pouvait pas en faire un supplémentaire. Et c'est en entendant ce que tu disais où j'ai dit, tiens, voilà l'idée. Et c'est parti de là. Donc, en sa mémoire, j'organise donc ces 24 heures. Pour pouvoir donner tout ce qu'on va pouvoir récolter à la famille de cet enfant pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Eux vont donner une partie d'argent à la recherche ou ce qu'ils veulent. Voilà, après, pour moi, peu importe après, ils feront comme ils veulent.
Il y a un truc quand même qui est incroyable dans l'histoire. Donc, ton fils, en fait, est mort il y a combien d'années ?
Il y a 10 ans.
Il y a 10 ans.
Il est parti à l'âge de 8 mois.
D'accord.
Et quand il était à l'hôpital, la course à pied, c'est là où elle est devenue très importante pour moi. Il était à l'hôpital à Besançon. Et j'ai tout fait les cols qu'il y avait autour de Besançon pour me changer les idées. À chaque fois qu'il dormait, je partais courir. Le soir, je partais courir. Dès que je savais à peu près qu'il était réveillé, je revenais et j'étais auprès de lui à ce moment-là avec mon épouse. Mais c'est vrai que c'est là où ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là que j'ai arrêté le rugby, quand j'ai appris sa maladie à la naissance. Et tout est parti de là. Et j'ai jamais lâché la course à pied. Quand il est parti, je m'y suis mis encore plus qu'avant. J'ai tout arrêté, ce qui était médicaments, tout ce qu'on nous donnait, tout ça qui est complètement nuisible. Et je suis resté sur la course à pied et c'est ça qui m'a gardé la tête hors de l'eau.
Ouais, c'est vraiment été ta manière de soigner, enfin de, je sais pas si on peut dire soigner, de, en tout cas de t'accompagner dans ces moments-là, en fait.
Voilà, d'évacuer toute la tristesse. Bon, la tristesse, non, tu l'évacues pas, tu peux pas, mais toute la rage que tu as en toi, ça permet d'évacuer, de déstresser, d'être mieux dans sa tête. Ouais, ça a été pour moi le grand truc. Ouais.
Tu dis donc ton fils est mort à 8 mois. Alors la maladie, on va le dire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui seraient qui connaissent pas l'amyotrophie spinale, c'est ça, hein?
Voilà, amyotrophie spinale de type 1 pour lui, c'est-à-dire que c'est dès la naissance. Donc, ben, c'est des problèmes qui sont liés à la moelle épinière, qui sont, voilà, il y a beaucoup de, c'est génétique, c'est une maladie génétique. Donc, voilà, quoi, on peut pas faire grand-chose par rapport à tout ça.
D'accord. Et alors, le truc qui est incroyable, et tu l'as dit, c'est que tu as une fille donc qui a maintenant 9 ans,
Oui, c'est ça.
qui dans sa classe a quelqu'un, un enfant,
Exact.
qui s'appelle quoi? Hugo, je crois. Non, Hugo, c'est ton
Non,
fils.
Hugo, c'était mon fils.
Et c'est Léonie, c'est ça. Hein,
Oui, pardon. Oui,
c'est Léonie
je sais pas.
qui est l'enfant, qui est dans la même classe que ta fille, qui a
Exact.
en fait une autre forme de cette maladie, mais qui a une autre forme de cette maladie, quoi.
Oui, c'est une autre forme. C'est pas le même type. Donc, il n'a pas les mêmes dangers. Et aujourd'hui, la médecine avance à grands pas. Ils font des trucs remarquables et qui l'aident énormément. Énormément. Mais bon, c'est un petit garçon qui est très courageux. Ce sont des enfants qui sont très courageux. Ils connaissent la douleur, ils ne se plaignent pas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais quand mon fils est né avec cette maladie, les médecins nous avaient dit on aurait eu plus de chances de gagner au loto, plus à l'euro-million, que d'avoir un fils avec cette maladie. Donc aujourd'hui, ben voilà, en l'espace de 50 km, il y en a deux, ou il y en a même peut-être plus, que je ne connais même pas. Mais voilà, ça s'est généralisé plus qu'il n'y en avait avant. Mais bon, ils ont un écart de 9 ans, les deux gamins, donc c'est vrai que bah, ça avance. La médecine avance.
Pour ton fils, en tout cas, tu m'as dit il n'y avait aucun traitement possible.
Ils ont fait leur possible. Oui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais non, non, non. Non, il n'y avait pas. On savait qu'ils n'iraient pas plus que l'âge de 2 ans. Ça, c'est ce qu'on a su très vite. Donc on était prêt, enfin prêt. On essayait de se préparer. Et voilà, on attendait, on faisait ce qu'on pouvait. On l'a ramené à la maison. On a passé pas mal de pas d'examens, mais de tests, parce qu'il avait une trachéotomie. Donc on a appris à pouvoir remettre une trachéotomie, à pouvoir refaire avec mon épouse. On a appris vraiment un maximum pour pouvoir le ramener chez nous. Et voilà. Parce que nous, l'hôpital le plus proche est à 100 km. Donc, il fallait vraiment réussir à pouvoir faire les soins à la maison un maximum.
À 100 km.
Eh ouais, c'est la campagne. On a bien un hôpital sur Pontarlier qui est plus près, mais qui n'était peut-être pas adapté pour Hugo.
Ouais. Et donc Léonie, lui, donc il est alors, quoi, il a 9 ans, hein, 10 ans, enfin 9 ans.
9 ans. Il va
Donc
avoir
il est
9
en
ans.
classe, à quelle classe il est?
Ils sont en CE2.
Son CE2. Qu'est-ce qu'il lui faut en fait? Comment vous allez l'aider en fait en courant?
Comment l'aider? J'ai jamais posé la question. J'ai jamais osé poser la question.
D'accord.
Tout ce que je sais, c'est qu'ils font souvent des manifestations, ils font jamais d'appel, mais ouais, ils organisent plusieurs petites manifestations pour amener des fonds pour pouvoir les aider.
Ouais.
Donc je n'ai jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. Seul truc qui m'est paru évident, c'est les aider,
D'accord.
uniquement.
Et donc, le en fait, ils ont une association, ils ont quelque chose?
Oui, ils ont une association, Léonie tout court. Et donc, pour ma manif, bah, on s'est greffé dessus. où on a remis un petit onglet où c'est 24 heures de Hugo pour Lioni. Mais c'est tout. Autrement, c'est la même association. C'est tout est à l'identique. Ça a permis de ne rien créer. Tout était fait. C'était pour moi beaucoup plus facile.
Ouais. Toi, tu deviens greffé dessus et tu leur apportes. Alors, tu leur apportes des fonds, hein, parce oui. que on va le dire, il y a des objets, des produits qui sont vendus pour collecter de l'argent aussi.
Oui, absolument. On a fait des t-shirts. Mmh. On a fait des coupe-vent, des polaires, des bonnets. Voilà, ouais, c'est tout ce qu'on a fait.
Ouais.
Je sais parce qu'il y a un projet qui était supplémentaire, mais que on a laissé tomber. Mais oui, ça nous permet de pouvoir ramener des fonds supplémentaires à toutes les personnes qui voudront courir. On ne demande rien. Chacun donne ce qu'il veut. Celui qui court une journée, les 24 heures complètes, il donne ce qu'il a envie. Et celui qui fait une heure peut donner pareil. Il y a aucune somme imposée, aucune.
D'accord. Et on va le dire aussi, hein, il y a des entreprises locales qui vous aident aussi, qui participent à cet élan.
Ah oui, ça a été une très grande chance. C'est où ça m'a aidé également, c'est mon employeur. Quand j'en ai parlé au repas d'entreprise en été, où j'ai dit, ah bah tiens, j'ai un petit projet, je me demande si je vais pas le faire. Et mon grand patron étant là a dit, écoute, du moment où tu le fais, tu peux compter sur nous, on te soutient. Donc je me suis dit, bon bah si déjà mon entreprise me soutient dans un truc comme ça, ça va aller. Et c'est vrai que c'est allé très très vite. On a eu 4 gros sponsors sans trop bouger. Rien qu'en parlant comme ça, ça a bougé tout seul.
Ce qui montre d'ailleurs, c'est rassurant, c'est que la solidarité entre les gens existe encore, pour ceux qui en doutent.
Ah oui. Est-ce que c'est l'effet de petites communes comme nous, ou est-ce que c'est vraiment les gens qui sont restés encore humains? Je sais pas. Mais ouais, dans les petites communes comme nous, c'est vrai que le contact est encore là, et pour de grandes enseignes, ils disent toujours on est présent. Oui. Ouais, c'est beau à voir.
Alors, bien sûr, ton défi à toi, c'est de courir 24 heures. Est-ce que, enfin, tu dis je m'arrête pas, je vais faire des pauses. Comment tu t'es pas mis de kilométrage ou de choses à faire en particulier?
Non, je me suis rien mis en objectif. Je pars comme ça d'ailleurs en trail. Je ne pars jamais avec un objectif pour me dire faut que je fasse tant de temps, etc. Non, je pars et j'essaie pour faire au mieux. Comme on dit avec nos enfants quand ils sont à l'école, fais de ton mieux. Si t'arrives pas mieux, tant pis, mais fais de ton mieux. Ben, moi, je vais partir dans le même principe, comme je dis à mes filles, et on verra ce que ça va donner. C'est sûr que y a mon coach Aurélien Charité qui me donne un énorme coup de main. Alors franchement, le pro du pot, un gros pot pour moi. Et c'est vrai qu'il m'aide beaucoup et ça va pouvoir me permettre de pouvoir voir au niveau de l'alimentation. Parce que là, c'est pas évident. Je suis pas quelqu'un qui mange sainement toujours. D'ailleurs, mes collègues de travail qui m'entendent vont pouvoir rigoler parce que c'est vrai. Entre mes pitchs, entre les gâteaux, les chocolats et tout, voilà. Mais autrement, ah ouais. Oui, je ne sais pas du tout comment je vais tenir. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'à un moment donné, j'aurai une crampe? Est-ce qu'il va falloir que je dorme? Parce que je suis quand même un gros dormeur. C'est plein de questions qui vont se poser comme ça.
Alors c'est difficile à préparer à comment se dire, à dire je vais pouvoir anticiper, parce que bon, déjà il y a un aspect météo qui va jouer, c'est entre s'il fait froid ou s'il fait bon. À quelle heure tu pars d'ailleurs?
À 15h.
15h.
À 15h samedi jusqu'au 15h dimanche.
Donc ça veut dire que 15h, le soleil à cette époque là va se coucher à quoi? 18h? 19h?
On aura changé déjà d'heure.
Ah.
On sera pas en heure d'été. Déjà, j'ai gagné un petit peu à ce niveau-là.
D'accord. Je suis en train de chercher, en fait, au mois d'avril, je suis en train de chercher. Je sais qu'on arrive, en fait, tout le matin, c'est vrai qu'il se lève plus tôt quand même. On a des grandes journées qui sont plus longues, etc. Ça peut cailler.
Ouais, ça commence.
Ouais, mais la nuit est plus courte, on va dire.
C'est pour ça que les 12 heures que j'ai fait, je les ai commencées à minuit.
Ouais.
Et c'était au mois de novembre, je crois. Et ça me permettait de voir un petit peu ce que ça allait donner avec le froid. Bon, je sortais de mon lit, donc c'est pas évident. J'avais bien mangé, j'étais frais. Donc là, à minuit, en ayant déjà eu quelques heures dans les pattes, je sais pas ce que ça va donner.
Ouais.
Là, je ne sais pas.
En fait, attends, je suis quand même épaté par un truc, c'est que tu t'es levé à minuit un samedi pour aller courir
matin,
dans le noir pendant 6h30.
Ouais.
Ouais. Et bon,
Oui, j'adore ça.
Et il y a personne qui, enfin, remarque, il y a personne qui t'a vu à ce moment-là, quoi.
Non. Non, personne ne m'a vu. Mais courir de nuit, j'adore ça.
Oui.
J'entendais dans un de tes podcasts, c'était celui d'aujourd'hui, je crois, où partir, courir dans la forêt et tout ça.
Mm.
Je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis avec ma frontale.
Ouais.
Quand on habitait encore dans Prichard, là, un petit village où on a eu Hugo, je partais au trail où il y a le parcours du trail des échelles de la mort, où on va jusqu'au bord du Doubs. C'est extraordinaire de nuit. On voit les yeux des animaux, on entend des bruits, on ne sait pas ce que c'est. Ça mmh. donne des frissons. C'est extraordinaire, tout ça. Moi, j'adore. Mmh. Je suis tout seul. S'il y a quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Franchement, c'est génial.
T'as jamais pris peur? Attends, ça c'est une vraie question. T'as jamais pris peur?
Si. Si, parce qu'il y a des yeux, quand tu les vois à certaines hauteurs, tu sais un peu ce que c'est. Mais mmh. si c'est plus haut, tu sais pas ce que c'est. Ça peut être un hibou du coup. Ouais, c'est. Si, si, du coup, il y a des coups de flip. Mais c'est ça qui est bon. On repart deux fois mieux.
Ouais. Moi, quand j'étais gamin, je partais en vacances dans les Cévennes, et bon, c'était en plein été, tu sais, mais on se baladait la nuit. Il y avait un nombre de bruits, des trucs comme ça, on sait jamais ce que c'était. C'est impressionnant quand t'as pas l'habitude, hein.
Ah oui. Et puis moi, je partais souvent c'est au bord du Doubs, avoir le bruit de l'eau. De... Ah, c'est génial, c'est génial. C'est non, mais c'est prenant. J'en voyais quand même. J'avais ma femme qui avait ma position.
Ouais.
Elle pouvait me suivre. Enfin, elle pouvait retrouver au cas où mon téléphone, peut-être pas le bonhomme, mais au moins retrouver le téléphone. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais. Je ouais. le fais moins. C'est dommage. Mais bon, en ce moment avec la neige, la glace, c'est trop dangereux.
Mmh.
Mais ouais, non, mais c'est agréable.
Moi, après, et c'est vrai, et donc tu fais référence à l'épisode dans lequel on parlait de ce sujet-là. Parce que c'est vrai que courir de nuit, il y a des gens qui ne le font jamais parce que ils peuvent se dire, bon, c'est pas drôle. Hein, moi, je trouve que c'est drôle. Hein, à une époque, j'aimais oui. bien les courses nocturnes, les trails nocturnes. Je trouvais que c'était vraiment plus fun que les trails de jour, même si je critique un peu la Saint-Élion, dont j'aime pas. Je me dis, la Saint-Élion, mm-hmm. c'est trop long pour moi, tu vois, en distance. Mais un trail court, en nocturne, où il y a de la boue, des trucs comme ça, ça me fait rigoler, moi, en fait, ce truc-là.
Oui, tout à fait.
Et moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup de courir très tôt le matin. Et pour voir le lever de soleil, je pars de nuit. Alors, l'été, c'est facile, parce que finalement, il fait bon, l'aube, etc. Mais c'est vrai qu'hiver, quand même, et tu le dis, hein, c'est pas si évident que ça. Si ça glisse, si c'est un peu brillant, si c'est un peu... Des fois... C'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai que c'est une expérience à tenter pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Vraiment.
Ah oui.
C'est vraiment un truc à tenter.
Ah ouais, c'est un truc, c'est une super expérience. C'est, oui, comme tu disais, il y a des bruits qu'on. Bah, on sait pas ce que c'est. On a beau réfléchir, mais on sait pas ce que c'est. Et à ce moment-là, bah, on se met un petit peu à accélérer parce que on s'en rend même pas compte. On accélère, on se dit, on sait pas ce qui va nous arriver derrière, on ne sait pas. Tu regardes si tu vois pas un bout de bois, peut-être à la rigueur pour mmh. te défendre ou je sais quoi. Mais c'est vrai que c'est très agréable.
Et tu sais, alors, je vais te faire rigoler. L'autre jour, je me suis fait peur en courant de nuit. Et ben, tu sais comment je me suis fait peur? J'ai mon ombre. Tout d'un coup, j'étais en train de courir. C'était un matin, je sais plus quel matin c'était. Et je courais comme ça. Et à un moment donné, j'ai une trace, un grand truc noir qui surgit face à moi. Et bam, une ombre. Et en fait, c'était moi. Et j'ai sursauté, mais je dis, oh, putain, mais quand même, t'es couillon. Et en fait, c'était juste une histoire avec la lune, un ombre, tu sais, ou un arbre et tout. Puis, je sais pas, ouais. je suis passé d'un moment donné où c'était un peu forêt, tu vois, quelques arbres, et puis à un moment donné où, d'un coup, il y avait plus de luminosité. Et ben, j'ai sursauté. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à ce qui se passe autour de nous. Parce que, il y a plein de choses qui se passent la nuit dont on n'a pas trop idée. Moi, par exemple, je sais, et je sais par expérience, si je vais courir toujours sur mes chemins, je vois jamais de lapins. Et mmh. franchement, très rarement. Après 7 heures, c'est fini. Par contre, si je vais courir de nuit ou très tôt le matin, je vois des lapins partout.
À nous, c'est les chamois. Ici, chez moi, en ce moment, c'est beaucoup de chamois.
Ah ouais? Oh, c'est sympa, les chamois. Oui.
Ah ouais. Et puis, on s'y attend pas parce qu'ils sont dans les rochers.
Mmh.
Donc, d'un seul coup, ils surgissent, ils traversent devant toi. C'est... Bah là, par contre, ouais, là, tu fais un saut. Là,
mmh.
là ouais. Là, t'as un petit coup de flip, là.
Mais c'est gentil, un chamois, non?
Ouais, je pense. Ouais, je sais pas. Je suis jamais allé tout près leur demander, mais ouais.
Ah, je sais pas.
C'est comme un chevreuil.
Bah, je sais pas. Tu devrais demander à Seb Merel. Lui, Seb Merel, il parle à l'oreille des sangliers. Tu devrais demander des conseils pour parler à l'oreille d'un chamois, voir un petit peu ce qu'il en pense.
Ah, mais les sangliers, j'irais pas trop non plus. Ah. Les voir passer, tout ça, je suis content, j'aime bien, mais c'est tout.
Ouais, moi, alors franchement, croiser un sanglier, c'est ma hantise. Sur mes chemins, je n'ai pas de sanglier. Ma femme, un jour, a vu un chevreuil dans la forêt. Moi, je ne sais jamais comment. Je n'ai jamais vu le moindre animal autre que des lapins dans mon coin, dans mon truc. Et l'autre jour, je rigolais parce que j'ai un copain qui marque sur Internet qu'il avait des sangliers. Sanglier qui était passé dans son jardin. Je lui dis comment t'as reconnu. Il me dit j'ai pris en photo les crottes, j'ai cherché sur internet. Alors maintenant je me dis je vais courir, je vais regarder, je vais prendre en photo les crottes. Je vais les comparer. Il y a beaucoup de crottes de lapin dans mon coin, un petit peu des faisans, des trucs comme ça qui passent, mais il n'y a pas de sanglier. Par contre, c'est vrai que le chamois, moi quand j'étais gamin, j'avais un bon souvenir des chamois quand j'allais faire de la randonnée, etc. Je me dis tiens, oui, ça émite, je comprends le côté émerveillement quand même de voir un animal comme ça, quoi.
Ah oui, ouais, c'est magnifique, c'est majestueux, c'est la nature, c'est magnifique, c'est ce qu'on a de plus beau.
Et donc alors quand même, tu le dis, la nuit là, tu peux partir. Alors on revient à cette histoire là quand même, t'as tourné 6h30 là de nuit là comme ça.
Ouais.
Même dans un petit village comme le tien, oui. Finalement, il y a personne qui t'a vu faire ton espèce de tour là comme ça, qui s'est pas posé une question de savoir ce que tu faisais?
Non, parce que je suis quand même allé au terrain d'athlétisme.
Ah,
je
ne
suis pas non plus parti. Chez moi, c'est. Je voulais le faire sur du plat. Je voulais le faire en conditions réelles. Mmh. Chez moi, du plat, ça n'existe pas.
Ah, comme chez moi.
Où je suis, du plat. Si je veux du plat, si la voie verte, qui est l'ancienne voie de chemin de fer, et encore, ce n'est pas super plat. Non, chez moi, le plat n'existe pas. Nous, sur notre coin, il n'y a pas.
Mmh.
Et c'est pour ça que je suis parti sur le terrain d'athlétisme, voir ce que ça allait donner. Et c'est sur du plat, c'était du sable. Donc. Les conditions étaient bonnes. C'est pas le macadam que je vais avoir cette fois-ci.
Ouais. D'ailleurs, alors la question, c'est pourquoi tu ferais pas sur la, pourquoi tu veux pas le faire sur la piste, à la limite?
Parce que cette piste, bon, j'ai vu beaucoup avec le président du DSA,
ouais.
Qui m'a dit, écoute, notre terrain n'est pas en super forme. Ouais. Le sable, on va faire des sillons à force de courir.
Ouais.
Et toujours le même problème, c'est qu'il peut prendre l'eau. S'il pleut beaucoup, c'est une piscine qu'on a.
Et oui.
Donc, il fallait vraiment que je sois à un endroit où je sois sûr de pouvoir tenir par n'importe quel temps, par n'importe quelle météo.
Ouais.
Aujourd'hui, où on a prévu, s'il y a de la neige, le maire a dit on déneige, et puis on sale, éviter le verglas. On est bien pris en charge. Le maire a assuré, nous suit à 100% et nous mettra les moyens dont on a besoin, que ce soit les barrières, on a la police municipale qui va bien nous aider aussi,
ouais.
On va nous mettre les barrières en place. Là, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Mm. Et puis, j'ai beaucoup de chance aussi en revenant au Petit Léonie. Je ne vais surtout pas l'oublier, c'est Louisa, qui est la marraine du Petit Léonie et qui me donne un coup de main énorme, énorme. Je pourrais, sans le coup de main qu'elle me donne, je n'en serais peut-être pas là. Elle a trouvé beaucoup de personnes à nous aider. Les t-shirts, c'est une de ses copines qui fait le flocage. Elle s'occupe de tout ça. Et c'est un point en moins énorme. Parce que sans organiser ça plus l'entraînement, ce serait compliqué.
Ouais, ce que j'allais te dire, c'est que déjà s'entraîner, parce que tu t'entraînes combien de temps là, par jour, par semaine?
Bah, je fais 6 jours sur 7. En général, le vendredi, même avant que j'aie ce projet, c'était mon jour de repos.
D'accord.
En général, c'est le midi. Pendant ma pause du midi, par n'importe quel temps, je pars courir. Bon, mes collègues me traitent de fou, m'ont demandé si j'ai un problème à la famille, si j'ai un problème ou autre, parce que tous les midis, ils me voient partir courir par n'importe quel temps. Et c'est vrai qu'on m'a demandé, ça va, tout va bien chez toi, tu vas toujours courir? Oui, ça va bien, pas de souci. Non, mais ça me fait du bien. Les gens ne comprennent pas. Mais voilà, tous les midis, je pars courir, et puis 6 jours sur 7. Le samedi, dimanche, c'est les longues distances. Plus des fois aller marcher en famille, faire du vélo en famille, etc.
Et n'empêche quand même que tes collègues, ils peuvent dire t'es fou, mais si t'as le même sourire tout le temps que tu l'as sur des photos d'Instagram, moi je serais heureux, je me mettrais à courir aussi.
Là elles t'entendent, j'espère qu'elles vont bien t'entendre.
Non mais soyons honnêtes, franchement, hein, parce que
la banane on l'a pas toujours, ouais. Mais on essaie de l'avoir, c'est clair.
Hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais t'es fou, t'as vu le temps qu'il fait, etc. Là, franchement, tes photos, t'as un grand sourire. Tu me dis que t'as 50 ans, bah, moi je me dis, écoute, Je connais des gens de 50 ans qui n'ont pas l'air d'avoir la même forme que ce que tu as toi, et qui, même pas clair, c'est-à-dire que, qui ne l'ont pas du tout, tu vois, enfin franchement, qui n'ont pas du tout le même, la même ligne, etc. Et je me dis quand même, les gens qui disent « mais t'es fou, etc., qu'est-ce qui t'arrive ?» Moi, je pense qu'ils pourraient en prendre de la graine, enfin, soyons honnêtes, hein, non, mais... Et il faut, faut dire, attends.
Les collègues, vous avez entendu les collègues.
Et les collègues, hein, oh. Vous n'êtes pas obligé de courir 24 heures, mais allez courir de temps en temps une petite heure, comme ça. En plus, tu peux les accompagner, tu peux leur donner des conseils.
Ah, bien sûr. J'ai proposé. Plusieurs fois, j'ai proposé. L'été, même des fois, je fais du vélo au lieu de courir. J'aurais dit, bah, prenez un vélo, venez. Bah, non. Mais bon, en revenant aux choses que tu dis souvent, bah, je vais essayer d'être un vieillard galopant. Comme tu aimes le dire.
Eh oui.
Donc peut-être que ça aide.
Bah, mais franchement, t'es parti pour être un sacré beau vieillard. je ne vais pas t'envoyer des fleurs. Mais alors, sincèrement, il y a des pour des gens de 50, enfin, juste franchement, et soyons honnêtes. Et de toute façon, ton compte, je mettrai un lien sur ton sur Instagram si les gens veulent aller les voir, soutenir, bien entendu, etc. Quand on dit que le sport ça fait du bien pour la santé, on parlait du sourire, on peut parler de la ligne, on peut dire ce qu'on veut. Tu me dis je mange pas très bien, etc. Mais hein, franchement, t'as quand même la ligne, quoi. Soyons honnêtes.
Ah oui, mais j'ai jamais été, jamais eu de problème de poids. J'ai jamais eu été obligé de regarder mon alimentation, me dire ah faut que je fasse attention à ci, faut que je fasse attention à ça. Non, non, si je fais attention, c'est bah pour garder la forme, mais c'est j'ai jamais eu de problème de poids. Ouais, c'est bon. Une très grande chance pour moi.
Ouais, t'es un vénard, quoi. Ouais. Bon, ouais. Bah écoute, il y en a. Ça arrive, c'est comme ça, hein. On n'est pas tous égaux.
Je suis désolé. Hein.
Non, mais écoute.
Je sais qu'il y en a plusieurs qui ça les attriste, mais oui, c'est une très grande chance. Et je m'en rends compte, hein. Je m'en rends compte.
Ça fait combien d'années finalement que tu cours? Tu m'as dit, ça fait 10 ans à peu près?
Bah, 10 ans vraiment où je m'y suis beaucoup mis. Autrement, bah, je courais toujours un petit peu aux entraînements divers et variés, mais pas comme je suis aujourd'hui.
Ouais. Mais tu fais des courses, tu as fait des trails, des courses, des choses comme ça?
Ah oui, j'ai toujours fait un petit peu des trails, fait donner des coups de main dans les organisations de trails. Le trail où j'étais, les échelles de la mort, je faisais le serfil. Voilà, ça permet de discuter avec les gens. Non, mais j'aime bien tout ça. Ah ouais, je faisais des courses, mais j'ai jamais cherché le chrono. Moi, comme plusieurs n'arrivent pas à comprendre, mais je m'arrête facilement, prendre une photo pendant mon trail et repartir aussi vite. Mais un beau coin, un truc sympa, voilà, j'aime bien.
Ah bah écoute.
Mon but, moi, c'est prendre le nombre d'inscrits, le diviser par deux, et il faut que je sois en dessous.
Attends, après, tu prends le nombre d'inscrits, tu divises par deux.
Voilà.
Donc, ça fait, s'il y a 100 inscrits, ça fait 50.
Et il
donc,
faut que je sois en dessous des 50.
Dans les 50 premiers, ça veut dire.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et pour moi, je suis heureux.
Ah ouais. Ah bah dis donc, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Ouais. Non, parce que d'habitude, je cherche le truc, dans se dire on veut éviter d'arriver dernier, on veut essayer d'avoir le truc, etc. Alors toi, t'as une tactique. Ah ouais, alors quand même, ça veut dire quand même que tu cours plus vite que la moyenne des 50...
Bah, j'essaie en tout cas. En général, ça fonctionne. Après...
Et tout ça, on s'en est
coach, et puis il va pas être content là, si ce que je dis.
Ouais, et ton coach, il t'a jamais dit oh, arrête de faire des photos, accélère, tu pourrais monter, te rapprocher du top 20, un truc comme
non,
ça.
Non, il est trop cool. non, il est cool. C'est plus les copains qui comprennent pas ça.
Ben écoute, moi je trouve que si tu vas courir, on parlait des animaux, des chemins, etc. Si tu vas courir dans des espaces comme ça, que t'as des belles vues, t'as des trucs super chouettes, et que tu prends pas le temps de faire une petite photo ou d'apprécier ce que tu vois, à quoi ça sert d'aller courir là-bas?
Ah oui, faut pas. Moi, c'est voilà. Moi, je pars sur ce principe. Surtout qu'on est dans une région où on a des belvédères qui sont extraordinaires. J'essaie de faire avec mon téléphone, mettre même un point pour pouvoir le retrouver plus tard, revenir avec la famille en faisant une marche. On a des coins extraordinaires. La Franche-Comté, elle est riche en cascades, en belvédères, en forêts. On a des petits chemins. C'est magnifique.
Tu travailles à l'office de tourisme, je serais même pas surpris, mais c'est même pas le cas en plus.
Non, je suis en horlogerie. Rien à voir.
Bon, faut dire que c'est la région de l'horlogerie, hein, donc.
Ah bah voilà.
C'est pas non plus surprenant. On disait donc sur le, tu fais des courses comme ça, donc finalement, t'aurais pu faire plus de courses, des choses comme ça, mais toi, ton truc, c'est finalement, tu dis, je cours, je profite de la nature, etc.
Oui et non, oui. J'essaie de faire quand même mes trails dans bonnes conditions, des temps quand même raisonnables.
Ouais.
Mais c'est vrai que je n'ai jamais été préparé comme je le suis là.
Ouais.
Aujourd'hui, 50 ans, j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main, qui me coach, qui m'a vraiment boosté, qui m'a fait énormément progresser. Je vois par rapport aux différents temps que je peux faire dans mes entraînements autour de chez moi. Eh ben, je vais en profiter. C'est-à-dire que là, j'ai changé de catégorie en ayant 50 ans. C'est plus la même catégorie de course. Donc, je me retrouve dans la catégorie des plus jeunes, entre 50 et 60 ans. Donc, je suis le plus jeune de cette catégorie-là. Donc, c'est maintenant qu'il faudra vraiment que j'essaie de faire le mieux, faire un petit chrono.
Ouais, t'es le plus jeune dans la catégorie des plus vieux. Enfin, des pas
exact,
plus vieux.
Oui. Merci, Bertrand.
Non, mais ça veut dire que t'es en quelle catégorie, en fait?
Je sais plus comment ça s'appelle. C'est 2 ou 3, je crois.
Ouais, parce que avec les numérotations, les masters, etc., je sais jamais combien c'est. Mais tu sais, et moi, il y a un piège dans cette histoire-là. C'est que des fois, dans ces catégories-là, ils courent vite, hein, quand même. Hein.
Ils courent encore très vite. Ouais, ouais, j'en ai au DSA encore quelques-uns de mon âge. Ils arrêtent, malheureusement, ils arrêtent au fur et à mesure. On arrive dans les derniers. Mais il y en a même des plus âgés que moi ou costauds, très costauds. Ah ouais, ça galope, vite.
Moi, tu sais que j'avais eu, je l'ai raconté cette anecdote un jour, quelqu'un qui disait bon, bah, change de catégorie, je suis content, je vais pouvoir aller peut-être faire des podiums dans la catégorie. Comme je suis un jeune parmi les plus vieux, et attends, il rentrait à l'époque juste en vétéran, hein, tu sais, juste à 35 ans, hein, un truc comme ça. Et il commence à dire, ouais, mais c'est bon, je vais pouvoir aller faire des trucs et tout, et des compagnies. Et je lui ai dit, méfie-toi, parce que moi, je trouve que dans ces catégories-là, un peu plus âgées, ils courent quand même super vite. Et puis en plus, ils sont capables de courir super vite et super longtemps.
C'est
et
ça.
Je lui ai donné le cas, je lui ai dit, tu sais, moi, le mec là, dans la catégorie, contre qui tu te retrouverais dans ma région, eh ben, il est juste champion de France de cross. Alors, je veux bien, tu vois, dans sa catégorie et tout, mais je pense qu'il te met une belle plumée quand même. Et c'est vrai, il faut se méfier, parce que moi, j'en ai eu au club, tu dis au club et tout, on en voit. Moi, j'ai vu des gars qui ont 50, même 60 ans, tu vois. Enfin, un mec incapable, impossible de le suivre, tellement il avance. Donc, bon, je comprends ton histoire hein, de dire on sait jamais, on peut grimper, etc. Mais t'as raison. T'as raison, t'as une belle préparation, etc. Faut voir ce que ça fait. Ce qui veut dire que t'as déjà prévu de faire des courses après derrière ?
J'en ai un, c'est le trail d'effort de Besançon, où on a la citadelle qui a été faite par Vauban, où on tourne sur les tout autour, c'est magnifique, avec des points de vue extraordinaires. Ah oui, celle-ci, ouais, ouais. C'est la seule pour l'instant, parce que je ne sais pas dans quel état je vais sortir de mes 24 heures. Donc, j'attends déjà de voir avant de prendre quel que soit le dossard. Mais autrement, oui, mais ce serait pour 2024, c'est le marathon de Paris.
Ah.
Celui-ci, oui. Bon. J'ai jamais fait de marathon du tout de ma vie.
Ouais, mais t'as fait pire.
Celui-là, oui, je sais, mais c'est l'ambiance. C'est comme un trail, le trail, c'est l'ambiance. Sinon, tu peux courir tout seul, mais l'ambiance est là, c'est extraordinaire.
Mais je regardais, en fait, en 6h30, tu as fait 65 bornes, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais, tu es déjà à plus de 10 km, tu es déjà autour de 10 km/h ?
Oui, à peu près.
Ouais. Bon, tu tournes à 12 en moyenne, sinon. Bah écoute, sur un marathon, en continuant la préparation comme ça, tu peux faire un temps qui peut être sympathique.
Je pense, ouais. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça reste à voir, mais après les 24 heures, je vais quand même tester, courir que la distance de marathon et voir ce que ça peut donner.
Ce qui ajuste un petit peu, c'est qu'à Paris, si tu t'arrêtes pour faire des photos trop souvent devant tous les monuments, etc., ça va être un petit peu spécial, et puis tu te méfieras parce qu'il y a certains bois où c'est peut-être pas du chamois que tu vas trouver, mais bon... C'est un peu spécial la traversée, et je le dis tout en plaisantant, mais j'ai un très mauvais souvenir du bois de Boulogne, la traversée du bois de Boulogne, non pas pour les gens qui habitent, enfin qui vivent au milieu des forêts, etc., mais ces derniers kilomètres sont quand même très terribles hein, sur l'ambiance où tout le monde est quand même un petit peu déglingué. Mais entre aller courir sur tes chemins et aller faire le marathon de Paris, c'est sûr que pour l'ambiance, ça va te changer, parce que là, tu vas avoir vraiment beaucoup de monde. Par contre, au niveau de la vue, mais du macadam, etc. aussi, c'est pas du tout les mêmes terrains, quand même.
Ah non, c'est pas du tout le même terrain. Bah, tu vois, là, je m'habitue déjà au macadam pour ça, pour les 24 heures. Mm. Déjà, le macadam m'a fait énormément de mal. Mm. J'ai eu mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles, mais ça passe. Et, bah, j'ai changé aussi de chaussures, ouais. Parce que je n'avais pas de chaussures pour pouvoir courir sur le macadam. Donc, quand je suis arrivé à Sport et Neige à Pontarlier, où ils ont l'habitude de me boire, où je leur ai dit, bah, c'est pas du travail qu'il me faut aujourd'hui, mais c'est pour du macadam, mais ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand je leur ai expliqué, ils ont dit, bah, on te suit. Encore un.
Cool.
Et ben, on se dit, ça, c'est les gens bien, les copains. Mm. Merci.
Mais c'est vrai que c'est comme ça, en fait, ça marche, les sponsors et tout, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est du moment que tu parles de ton projet. Il y a plein de gens à qui ça cause ces histoires-là.
Oui, ça touche
et c'est comme ça que ça se répand aussi un petit peu l'esprit autour de ce que tu fais.
Oui, c'est vrai que ça a touché beaucoup de monde, même si c'est pas pour la même maladie. Mm. Si c'est pour le cœur, c'est pour les poumons, pour quoi que ce soit, du moment où ça touche les enfants et qu'on a une connaissance où il y a eu un enfant malade, c'est vrai que ça touche les gens. Mmh. Et ils se disent, ça pourrait être le mien. On a de la chance d'avoir des enfants en pleine forme. Aujourd'hui, je le vois, mais j'ai une chance inouïe. J'ai mes enfants, ils sont en pleine forme, ils font du sport, ils font de tout. Je suis heureux. Mmh. C'est bien. On croit toujours que, ouais, ben voilà, on est en forme, bon, ben c'est bien. Mais quand on vit ce qu'on a vécu avec ma femme, c'est vrai qu'on se dit, on les voit courir, on les voit heureuses, marcher. Un truc tout bête, on les voit marcher.
Ouais.
C'est génial. C'est génial. Donc, quand on voit Léonie, ben, il est dans un fauteuil. Ça ne doit pas toujours être facile pour lui. Il est dans la cour, il voit les autres enfants qui courent. Bon, ben, il gère son fauteuil, il se débrouille super bien. Mais ça ne doit pas être facile. Quelque part, ça ne doit pas être facile.
Ouais. Et surtout dans ces périodes-là, parce que je ne sais pas comment, par exemple, le Covid influence sur un enfant comme Léonie, mais. J'avais une collègue, son fils est en fauteuil et une maladie respiratoire. Enfin, il est en fauteuil, mais il a beaucoup de problèmes. Et notamment où le rhume ou le moindre virus pouvait être très très risqué pour lui. En plus, donc c'est des périodes avec les confinements, avec les virus qui traînent, etc. En plus, ces enfants-là, on se rend pas compte aussi qu'ils peuvent avoir des fragilités de des fois qui viennent d'autres choses tout simplement et puis l'isolement peut-être aussi de dans les jeux dans ce qu'ils peuvent faire etc. Enfin il y a plein de choses qui sont pas faciles autour de ça et c'est vrai que ces grands élans là que tu crées auxquels tu participes finalement parce que c'est un petit événement quand même dans votre commune là.
Oui c'est un événement. J'espère que ce ne sera pas un trop petit événement, j'espère qu'on aura pas mal de monde, mais oui, c'est un événement quand même qu'on organise. On a quand même l'habitude d'organiser des manifestations sportives, on a quand même pas mal de choses qui sont, mais j'espère que ce sera quelque chose qui sera assez grand, qui sera assez beau pour pouvoir récolter un maximum.
Ouais, et de toute façon, bon, tu as déjà le journal qui est venu parler de toi, hein.
Oui, bah, en plus, c'est, oui, avec Facebook, bah, on a les gens qui nous découvrent. Mmh. Et de partager, bah, le journaliste m'a contacté, il m'a dit, écoutez, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ah, bah, oui, bien sûr. On a une radio locale à Village-le-Lac où c'est pareil. On a dit, bah, on va faire une petite interview, c'est génial. En plus, s'interroger par des enfants.
Waouh.
C'est super. Mmh. Voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Mais pour l'instant, ouais, la communication est primordial, et comme toi aussi, je remercie énormément, parce que c'est vrai que c'est une communication qui est très importante pour nous faire connaître cette manifestation, même si les gens ne viennent pas. Mais s'ils vont autour de chez eux, ils ont une manifestation dans le genre-là, ils vont se dire, ah bah tiens, on avait entendu dans le podcast, ah ouais, ce serait bien, on pourrait aller faire un tour, on pourrait donner un petit quelque chose, acheter un t-shirt, même pas donner comme acheter un truc, même si on ne donne pas de l'argent pour ne rien avoir derrière, au moins acheter un t-shirt, un truc, c'est génial. Ça peut aider les gens, c'est super.
Oui, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que les gens, quand on regarde un petit peu autour de nous, moi je sais parce que, bon là on enregistre aujourd'hui, on est le 15, février. Ce week-end, on a une course caritative, là, pas très loin de la maison, là, 10 minutes de la maison, moi. Je sais pas si je pourrais y aller, parce que, vu qu'en ce moment, j'ai de la fièvre tous les 3 jours, et ma espèce de voix que je peux pas masquer est un petit peu particulière, hein, et puis j'ai des douleurs qui m'empêchent de courir beaucoup, hein, je fais juste mes 10 minutes par jour, pas plus. Quand je vois toi le parcours que tu fais, je me dis, oh là là, mais comment je ferais pour faire ça? Mais en fait, il y a plein d'événements autour qui sont pour des associations, qui sont caritatives, qui soutiennent des projets, qui soutiennent plein de choses dont peut-être que on se rend pas compte, parce qu'on parle beaucoup des très grandes courses qui finalement des fois alignent un petit peu les sponsors en disant on participe à telle ou telle cause. C'est un petit peu pour se faire un peu, moi j'appelle ça c'est pas du greenwashing, c'est du je sais pas comment on pourrait appeler ça, du caritatif washing un petit peu, hein, on vous met un dossard à 80€ mais on donne 30€ à l'association, mm-hmm. hein, parce que on le voit sur certains, on le voit chez certains trucs et tout, mais par contre c'est vrai que ce genre alors toi c'est pas une course, mais il y en a où ça peut être des courses, bien sûr on connaît tous aussi les courses type Octobre Rose, toutes les courses féminines etc qui sont aussi dans ce cadre là nous à Clermont on avait la course féminine, ils arrivaient à faire un truc, c'est que tu t'inscrivais, tu donnais 10€ d'inscription, ils donnaient les 10€ à l'association, parce que c'était les sponsors qui participaient à toute l'organisation, au paiement de tous les trucs, tu sais, les bouteilles d'eau, les barrières, etc. Donc, ils faisaient vraiment un chèque global de tout le truc. Mais ça, c'est une force qui est impressionnante, parce que si on regardait un petit peu toutes les courses associatives, caritatives, etc., pour aider des projets, pour aider des enfants, pour aider des associations, moi j'avais vu aussi pour aider des centres pour les enfants, des choses comme ça, c'est plein d'associations, ça fait, on pourrait se dire qu'on pourrait courir que des courses comme ça si on voulait, si on regardait un petit peu les calendriers.
Ouais, autour, chez nous, non. Ça, non, on n'a pas. Octobre Rose, oui, ça on l'a. On est allé avec les filles, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, nous, de courses comme ça. Les courses qu'on a, c'est organisé par le ski club, par exemple, ou comme nous, le DSA. C'est surtout ça. Nous, oui, on n'a pas vraiment beaucoup de courses caritatives autour de chez nous.
Mais après, je vais te dire, c'est quand on regarde un petit peu, c'est que on peut chacun avoir, tu sais, la question du pourquoi tu cours. Et je t'ai pas demandé pourquoi tu courais, mais tu nous l'as dit tout seul de pourquoi tu courais. Il y en a qui courent pour, ils veulent avoir des dossards, il y en a qui veulent avoir des médailles, il y en a qui veulent juste s'évader, etc. Mais on pourrait dire qu'aussi, une bonne raison de courir, en tout cas de s'inscrire à certaines courses, pourrait être de dire aussi, bah tiens, j'aide aussi en même temps certaines associations, etc. Je peux cumuler les deux, j'ai envie de dire, je peux coupler les deux. Tu vois, moi, chaque année, je m'inscris à une course, alors cette année, j'ai pas pu le faire, mais qui est une course pour le Movember. Bon, bah, je me dis, même si je sais que une année je l'ai fait, j'étais blessé, etc. Je sais qu'au moins ça participe à une bonne cause, tu vois. Et j'ai plus finalement de me dire entre deux courses, ben je me dis je préférerais aller sur celle qui a une cause qui me tient à cœur, plutôt, et même une cause au sens large, hein, tout simplement, plutôt que d'aller sur une course qui a finalement pas vraiment de grand but, tu vois.
Ouais, tout à fait. Ouais. Puis il y en a d'autres qui peuvent participer autrement. Comme par exemple, je reviens un petit peu sur les miens de 24 heures. Il y a Stéphane, une personne que je connaissais pas du tout. Il m'a vu m'entraîner, c'était pour les 12 heures. Il me dit, vous préparez quelque chose ou vous faites quoi? Et puis, je lui explique. Ah, il me dit, oui, c'est intéressant. Il me dit, je vais prendre vos coordonnées et puis je vous contacterai pour participer.
Ouais.
Et il m'a contacté il y a de cela 2 mois à peu près. Puis il me dit, écoutez, moi courir, j'ai mal aux genoux. J'ai essayé, mais je peux plus. Par contre, je fais beaucoup de vélo. Si j'intègre du vélo de route à votre manifestation, est-ce que ça vous dérange? Je dis, non, pas du tout. Mais après, il faut voir tout ce qui est organisation, autorisation. Il s'occupe de ça en ce moment. Ouais. La mairie de Morteau le suit. Tout le monde, apparemment, suit son projet. Qui sera intégré au nôtre? Ça va faire une boucle de 20 km. Et tout autour de Morteau, où le départ se fait vers nous, ils vont faire leur boucle, revenir un petit coup vers nous, repartir. Je ne sais pas comment il va prévoir si c'est des vagues de 10 ou autre, mais voilà, ça c'est une personne qui s'implique pour nous aider, pour amener encore plus de personnes, mais à sa manière. Ça c'est génial. C'est s'impliquer dans différentes manifestations, d'une autre manière que financière, que c'est aider à ramener encore plus, mais à sa manière à lui.
Et mais à ce stade-là, vous allez faire courir et rouler tout le monde là?
Bah, c'est le but. Et marcher, parce qu'il y aura moyen de marcher, surtout. Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas courir. Les coureurs, il n'y en a pas non plus tous les coins de rue, mis à part au moment du confinement où tout le monde s'y est mis, mais autrement, il y en a de moins en moins cette fois-ci. Donc, celui qui voudra marcher pourra venir marcher aussi, pareil.
C'est-à-dire que celui qui veut venir marcher une heure comme ça, en fait, il est bienvenu.
Exactement. Il vient, il donne ou il donne pas. Mmh. Il peut venir, il marche. Peut-être qu'il achètera un t-shirt, peut-être qu'il va faire froid, qu'il voudra un bonnet. Peut-être rien. Mais il sera venu, il va peut-être en parler à quelqu'un, et qui va venir lui, et qui va peut-être lui, par exemple, consommer ou autre. Il ne faut pas obliger. Je ne voulais pas obliger les gens à faire une inscription, à faire. Non, je voulais que ça vienne d'eux-mêmes. Dire je viens pour cette cause. Je ne viens pas pour être inquiété, pour. Non. Mm. Non, tu viens, tu donnes pas, tant pis.
Et tu as idée quand même du nombre de personnes qui vont venir ?
Aucune. Franchement, aucune. Aucune dans les autorisations. J'ai mis environ 200 personnes, parce qu'il faut mettre un chiffre.
Ouais.
Mais non, franchement, je ne sais pas. Mais si toutes les personnes disent « on va venir faire un tour », ben, viennent réellement, il y aura du monde.
Mmh. Ouais, mais je te le souhaite, parce que tu as mis beaucoup d'énergie. C'est un projet, on comprend bien, qui a une symbolique qui est extrêmement forte, et on comprend bien pourquoi. Ça peut être que réussi dans ta tête, je veux dire, ou est-ce qu'il peut y avoir une déception s'il se passe mal quelque chose, ou tu as pensé à ça?
J'évite. Mmh. J'évite de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. C'est la chose où, oui, on y pense quand même. Hein. On a toujours ça quelque part dans un petit coin de la tête, mais non, j'évite de penser à ce genre de choses. Je mets tout du côté positif. Il faut mieux pas. Me dit Aurélien qui me coach, il me dit surtout le dernier jour, évite de trop t'emmêler, ne va pas voir porter les barrières, ah bah faut faire ci, on a oublié de faire ça. Il me dit, il faudra vraiment dire aux gens, bah, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, pour vraiment que j'ai la tête vide, pour pouvoir vraiment me concentrer sur les 24 heures. Parce que là pour l'instant, je suis dans ma préparation parce que j'ai mon programme et je sais que tel jour je dois faire ça, tel jour je dois faire ça, donc je m'adapte à ça. Mais le jour J, est-ce que j'aurai encore la tête dans ma préparation ou est-ce que j'aurai la tête dans savoir qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qui n'est pas prêt. Et ça, ouais, ça peut aider à ce que ça passe pas trop bien pour moi, ouais. Mais j'essaie de ne pas trop y penser.
C'est pas facile quand même ces histoires. C'est une vraie question, c'est pas facile, hein, parce que avoir à la fois toi la performance sportive qui se prépare et puis le côté organisateur de tout ça. C'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut pas non plus ton énergie parte du mauvais côté, quoi.
Oui, ben c'est ça. Il faudra vraiment que je puisse me focaliser uniquement sur ma course. Après, bon, ben, j'ai Louisa qui sera présente, qui va pouvoir faire beaucoup. J'ai mes enfants qui sont grands, qui vont pouvoir aussi faire. Mon épouse étant présente, va pouvoir aussi donner un coup de main. Mais ils sont pas à fond comme moi dans la prépa. Mmh. Ils sont pas à chercher vraiment le tout au niveau de la préfecture, au niveau de si des pompiers, des secours, des il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Et j'ai ma fille qui est aide-soignante, donc pour les secours, j'ai déjà beaucoup de chance.
Ouais.
Elle sera là. Elle va pouvoir diriger, elle va pouvoir donner un grand coup de main. Et bah après mon fils, c'est pareil, lui, il va pouvoir s'occuper de beaucoup de choses. Ma femme va faire tout ce qui est sono, parler dans le micro, tout ça. On essaie de se gérer nous-mêmes dans différentes petites tâches que je n'aurais pas à m'occuper le jour J.
C'est une sacrée organisation familiale quand même, votre truc. Et c'est beau, j'ai envie de dire, parce que tu me dis ma femme, ma fille, tout le monde va participer à sa manière aussi. C'est un bel hommage à votre fils.
C'est le but. C'est une histoire de famille. Mm. C'est une histoire de famille. C'était leur frère. C'était notre fils. Mm. Et voilà, on ne l'oublie pas, on ne l'oubliera jamais. Et c'est une manière communale de lui rendre hommage et de pouvoir aider quelqu'un en même temps. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime.
Et je me posais quand même une question. Est-ce que c'est pas, enfin, c'était trop tôt pour y penser, mais est-ce que c'est pas quelque chose que tu pourrais reproduire d'année en année?
T'es loin d'être le premier à poser la question.
Bah bien sûr. Non mais attends, bien sûr. Je suis sûr que tous les journalistes te l'ont posé. Je suis sûr la question en plus.
Exact. Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que bon, comme on me dit, c'est la première organisation qui est la plus difficile. Après, tu sais ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire. Mais non, non, je pense pas. Si je repars dans quelque chose, ce serait quelque chose, mais en solo. J'écoute beaucoup toutes les propositions qui se passent dans ton émission.
Ouais.
Il y en a quelques-unes qui m'ont déjà traversé la tête, qui m'ont... Je me suis dit, ah ouais, ça pourquoi pas? Pourquoi pas à vélo? Parce que je commence à penser un petit peu au sport porté aussi. Arrêter de trop taper dans les chevilles, dans les genoux. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. On en reparlera peut-être un jour. Mais pour l'instant, non, je sais pas.
Oui, après, c'est sûr que entre le rendre. J'allais dire pérenne, mais de le rendre régulier, etc. C'est une organisation encore différente, parce que surtout si tu commençais à devoir dire bah maintenant je vais comment prendre des inscriptions, avoir du chronométrage, avoir des choses comme ça en plus, tu te rajoutes une couche qui est vraiment oui. encore supérieure, quoi.
Voilà, ouais, ouais, non, non, ça, non, ça, c'est ce que je voulais pas faire un classement, faire non, 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 j'ai déjà un. Il y a déjà bien assez à faire comme ça. Mais non, d'un classement, non. On fera peut-être un petit podium, oui. Un podium comme ça, pour rigoler, entre nous. Mais non, autrement, non. Je pense pas. Non, non. Non, non, rendre ça officiel, non. Ou alors, faut que ce soit une équipe qui veuille le faire. Mais faut faire ça en équipe. Faut pas faire ça pas à deux, comme on le fait en ce moment.
Ouais. Et façon, sur le podium, enfin... Toi, tu vas monter sur le podium?
Oh non, parce qu'il y aura sûrement des beaucoup plus jeunes que moi qui vont faire beaucoup plus de kilomètres.
Tu crois?
Je l'espère.
Tu crois vraiment?
Non, non, mais on a des jeunes au DSA, si certains viennent, et moi je les appelle les mobilettes,
ouais.
c'est hallucinant. On a des jeunes dans le club, mais c'est... Oui, c'est les gars, ils disent « Ah ben non, j'ai jamais beaucoup couru, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ils ont une force dans les mollets, mais c'est hallucinant. » Mais comme Aurélien, qui est champion de Franche-Comté en trail longue distance, c'est des mecs, ils s'envolent. On le voit sur un trail, on dit « Bah tiens, voilà le vainqueur. » Ou si, de toute façon, il est sur le podium. On a Guillaume, un autre entraîneur, qui lui, c'est pareil, il fait des trails longue distance. C'est des machines. Il s'entraîne énormément pour ça, hein, mais c'est des machines, ces gars-là. Donc non, non, moi, non. Je veux, non, puis même, en tant qu'organisateur, non, je n'irai pas dessus. Place aux autres. Place aux autres.
Et après, à savoir s'ils sont capables de tenir à 24 heures, parce que c'est faire un 24 heures et courir un combien de billets pendant 7, encore, j'ai envie de dire 5-6 heures, c'est encore des choses différentes, etc. Mais
ah oui.
Dans tous les cas, j'ai de dire, tu montes sur le podium parce que par rapport à l'esprit de ton projet, par rapport à ce que tu mets dedans, par rapport à ce que tu fais, c'est aussi ça. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas si tu peux avoir une victoire dans cette histoire-là, en fait, finalement.
Non, non. Bah, déjà, il y aura différentes participations entre ceux qui auront fait en relais
ouais.
et ceux qui auront fait en solo. Donc déjà, c'est complètement différent. Après, ouais, faire deux podiums différents. Mais non, non, ce serait dommage. Ce serait dommage de faire un podium vraiment officiel dans quelque chose comme ça.
Ouais.
Pas pour une manifestation comme la mienne.
Ouais.
Pas comme celle-là.
Alors, pour finir, on va dire... des gens sont dans ton coin là. Bon, rendez-vous le 2 avril, c'est ça?
Oui, c'est ça.
À quelle heure?
2 avril à 15h. 15h le départ. Et donc, c'est parti pour 24h. Après, ceux qui veulent courir que 2h, 3h, 4h, ben, ils viennent quand ils veulent, à partir de 15h.
Ouais.
Mais avant les 15h de dimanche, du lendemain.
Bah oui. Logique.
Tout simplement. Tout simplement. Je pense qu'il y aura peut-être plus de monde au niveau du dimanche, jour où tout le monde ne travaille pas, de venir faire une petite balade, courir un ou deux tours. Ou alors, celui qui a l'habitude de venir courir, de courir le dimanche matin, eh ben, pourquoi pas faire un petit parcours avec nous.
Ouais. Ou
partir en forêt. Ça peut être ludique, ça peut être familial, ça peut être... Non, c'est ouvert à beaucoup de choses. prévoir beaucoup de choses.
Bah écoute, moi j'ai envie de dire, t'as celui qui fait un petit boulangeron, etc. Il t'amène un petit croissant alors que toi tu viens de finir ta nuit en courant.
Un truc au chocolat bien lourd, que je puisse pas repartir.
Hein? Non mais franchement.
Non, pourquoi pas, ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées. Ouais.
T'apportes un petit café au tour suivant et tout. Moi je veux te dire... Non, c'est le genre aussi de gestes, de venir soutenir moralement, etc. Parce que on sait pas le temps qu'il fait. Tu peux pas jouer sur la météo. Puis là, on est vraiment trop tôt pour dire savoir quel temps il fait. Mais
tout à fait.
S'il se mettait à neiger, parce que vous êtes dans un coin, là, et quand même, il faut dire ce qu'il peut neiger. C'est la nuit peut être compliquée. Hein,
oui.
Donc ça peut faire du bien le matin aussi d'avoir un peu de gens qui viennent soutenir, etc. Quoi, parce que
tout à fait, ouais.
On sait pas. Et ça, la météo, de toute façon, il y a personne qui peut prévoir quoi que ce soit. Que ce soit une course courte, une course longue, un défi ou n'importe quoi, c'est un impondérable qu'on est obligé de faire avec. Donc, j'avais même pas demandé si c'était une solution de repli, parce que tu peux pas faire une solution de repli en disant on va y courir. Tu peux pas. Enfin, t'as pas moyen d'éviter qu'il s'il y a mauvais temps, il y a mauvais temps, quoi.
Voilà. Nous, on a non position de repli, il y a pas. Le seul repli qu'on ait, c'est macadam, où on est sûr, où là on sera pas inondé. S'il y a de la neige. Bah, le chasse-neige nous l'enlèvera.
Ouais.
Non, mais autrement, c'est tout, ça s'arrête là. Après, ce sera plus dur. Et il va falloir avoir beaucoup de rechange, autant de chaussures, de vêtements, comme dans toute course. Hein. Les ultra-trails, c'est ça. Hein. Il faut changer souvent, il faut masser pour les muscles, il faut. Bah, là, ce sera pareil. Mais on a la chance de pouvoir se réchauffer dans une salle qui longe l'endroit où on va courir. C'est vraiment. On passe devant. Ça aussi, c'est génial. Ouais.
Si on veut t'aider et ou soutenir, participer, mais qu'on n'est pas dans ton coin, là, parce qu'il y a des gens qui écoutent du monde entier, de la France entière déjà,
oui.
Est-ce qu'on peut te soutenir d'une autre manière?
Oui, il y a une cagnotte en ligne qui a été mise en place. Je te donnerai.
Je mettrai dans l'adresse exacte, oui, bien sûr.
Ah ouais, tout à fait. Oui, bah il y a cette manière. Autrement, bah après, il y aura ceux qui veulent me contacter, c'est sur Facebook ou Instagram. Et puis ils peuvent me contacter s'ils veulent plus ample renseignement, s'ils veulent se déplacer. Il y a toujours de la place pour des camping-cars pour ceux qui voudraient. Il y a toujours moyen. Discutons-en. Contactez-moi et puis on en discute. On voit ce qu'on peut faire.
Voilà, et parce que il y a plein de choses qu'on peut faire différemment, etc. Donc je mettrai tous les liens, bien sûr, tu m'as envoyé tous les liens possibles qu'on puisse partager pour que voir aussi un petit peu hein, le contexte global. Et puis moi je mettrai bien sûr le lien vers ton compte Instagram pour que les gens puissent bien sûr te contacter pour échanger avec toi. Si déjà, moi je vais te dire, il y a un premier truc que tout le monde peut faire, hein, c'est déjà t'envoyer des messages d'encouragement, de soutien. Pour dire, vas-y, fonce.
Ça aide, hein?
Ouais.
Ça aide. Quand j'ai fait mes 12 heures ou à minuit, j'ai envoyé sur Facebook, je pars pour 12 heures. Il y en a qui ont vu ça le matin, ils se sont levés, ils sont venus. Ils sont venus courir avec moi, un petit coup. Ils sont repartis, ils ont allé faire leur entraînement parce qu'ils avaient prévu de la côte. Donc, ils sont partis faire leur entraînement ou parce qu'ils avaient déjà préparé un truc en groupe. Et ensuite, ils sont revenus vers moi, ils ont couru un petit coup, puis ils sont partis. Rien que ça, c'est génial. C'est génial. Puis les messages, ouais, les messages, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Savoir que on fait pas un projet en l'air où les gens sont là, te soutiennent, ouais, c'est bien, ça aide.
Donc je mettrai bien sûr tous les liens. Je vois aussi, on peut le dire, hein, que t'as des gens, tu portes le bracelet rouge, toi aussi, j'ai vu.
Oui, exactement, ouais. Ah, j'aime tout ça.
Ouais.
Ouais, c'est quelque chose qui, je pense, qui est assez important aujourd'hui. Surtout quand on fait du trail. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut tomber en forêt, on peut. L'iPhone peut tout donner, nos infos, mais le bracelet aussi. Et c'est plus simple. Et j'ai fait aussi de l'handisport.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'aime partager ma santé, partager mon goût de l'effort.
Eh ben écoute, c'est une belle manière, je trouve en tout cas, de partager l'effort, de relier l'effort à quelque chose. Hein, s'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi on court, hein. On revient à cette fameuse question-là de pourquoi on court. Finalement, il y a des gens qui le perdent un petit peu. Toi, tu nous as expliqué aussi dans quelles circonstances t'es venu à la course. Et on voit aussi le rôle que la course a joué pour toi. Et tu l'as dit, hein, je trouve que c'est aussi une belle leçon parce que plutôt que d'avoir des médicaments, peut-être qu'on vous a proposé plein de solutions à l'époque pour vivre ça, quoi.
Bah oui, on nous a, ouais, les psys, tout ça, mais bon, au bout d'une demi-heure, on s'en va. Mmh. On se dit non, c'est pas ma place. Moi, j'ai pas trouvé le besoin d'être à ce niveau-là. Et puis les médicaments, un jour, mon patron, il m'a dit, écoute, ça va plus du tout. Il me dit, t'es plus là, t'es plus concentré, ça. Puis mes collègues me disaient pareil. Et c'était le gros déclic où j'ai dit non, faut tout arrêter. Et puis, j'ai chaussé les baskets, encore plus qu'avant. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'en suis là, j'en suis content. Mmh. Ça m'a sûrement enlevé une épine du pied d'arrêter tous ces médicaments, parce que quand on les commence, on ne sait pas comment on peut les arrêter. Mmh. Donc moi, j'étais au tout début, donc ça a été très facile. Et voilà, je pense que c'est vrai. La course à pied m'a peut-être pas sauvé. Qui sait ?
En fait, on le saura jamais, mais on peut dire qu'en tout cas, et je leur dis, parce que quand on voit ton sourire, quand on voit... ta ligne, etc. Enfin, et tu sais, l'histoire de Pierre Galopin, etc., franchement. Parce que, moi, j'ai fait mon compte, là. T'es peut-être pas grand-père, mais tu pourrais l'être dans pas si longtemps que ça.
Non, ne leur donne pas d'idée tout de suite.
Bah quoi ?
Oui, je pourrais. 26 ans, mon grand, ouais. Ouais, ouais. Ce serait possible.
Bah ouais, franchement.
Bah ouais. Mais non. Faut qu'il vive.
Quoi? Non, mais t'as pas envie de prendre. Non, mais après, bien sûr, ça peut te faire prendre du grade de te dire, oh là là, il y a un petit gamin qui va me l'appeler papy ou je sais pas quoi. Mais franchement, l'image, tu la vois pas d'aller courir avec des petits enfants?
Ah si. Si. Si, si. Ah si. Mais pas tout de suite.
Ouais.
Non. Déjà, mes 50 ans, c'est un cap à passer. Et alors, grand-père, c'en est un autre.
Ouais, bon, écoute. Je veux pas te vieillir, mais c'est vrai que moi je me dis, tu vois, des petits enfants après leur temps de grandir, etc. et tout, de pouvoir courir avec ses grands-parents. Et il y en a pas tant que ça qui peuvent le faire quand ils pensent. Franchement, quand tu réfléchis au truc, en tout cas, moi, on avait des visions, c'est des grands-parents qui étaient quand même très âgés et tout. En tout cas, moi, les miens étaient comme ça. Moi, tu vois, je me dis quand même que. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai eu cette image là comme ça, hein. Alors je veux pas faire passer un message à tes enfants, hein, de leur dire de te faire grand-père trop vite, mais je me dis quand même que ce jour où ça arrive, et ça doit être un sacré truc, tu vois, quand même. Ouais. Et ça fait une raison de plus de devenir ce fameux vieillard galopant là, je trouve, parce que on parle beaucoup de changement quand on devient papa, etc., de ce que ça apporte et ce que ça change quand on devient parent. Mais finalement, on pourrait se dire aussi que avoir la chance d'être en pleine forme pour ses petits-enfants, et c'est aussi, je trouve, une belle perspective de dire une bonne raison de courir, tu vois.
Ah oui, bah ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Dans quelques années, ouais, il n'y a pas de souci. Faut pas, Kevin, t'écoute pas, je ne vais pas y donner le podcast surtout, ça pourrait y donner des idées, pas tout de suite. Hein. Non, mais ouais, ça doit être une super expérience.
Ouais.
Même pour eux, hein. Garder des souvenirs avec grand-père qui courait... À tel âge,
oui. Eh oui.
Ah ouais, ça doit être quelque chose de...
Et t'imagines.
Ouais, j'ai jamais connu ça, mais ça doit être intéressant. Ouais.
Bah ouais, écoute, un jour, tes petits-enfants diront, je vais courir avec papy. Ils diront à suivre un papy.
D'ici là.
Je vais courir avec papy, on était voir les chamois avec papy un matin, en pleine nuit, comme ça. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Mais en attendant, avant de partir dans ces considérations-là, je te souhaite déjà une belle réussite dans ton événement, parce que c'est un sacré événement. Tes collègues là qui écoutent, ils vont bien sûr tous venir marcher, hein.
Bien entendu.
Hein, bien entendu, les collègues. Ils ont tous entendu. Je mets bien entendu tous les liens aussi dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse. Alors, il y a une cagnotte, tu l'as dit. Il y a les comptes Instagram, hein, Facebook peut-être.
Oui, Facebook aussi.
Voilà.
Ah ouais.
Donc, on mettra tous les liens, bien entendu, pour pouvoir suivre cette aventure-là. Et puis, bien sûr, on partagera sur Instagram, etc., pour repartager. Je rappelle, hein, c'est les 2 et 3 avril à Morteau.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je te souhaite une belle dernière phase de préparation, parce que j'imagine que en ce moment, je te demande même pas combien de kilomètres tu vas faire demain.
J'ai pas regardé. Souvent, je regarde que le matin, ce qui est noté sur mon programme. Et c'est parti pour. En général, c'est 40 minutes à peu près, le midi.
Ouais, ça va. Hein.
Ouais, c'est tranquille.
C'est tranquille.
C'est le week-end le plus dur.
C'est cool, 40 minutes, ça passe vite. En tout cas, c'est même pas le temps pour écouter un épisode de podcast, tu vois. Sauf si on écoute en vitesse 1x2, hein, pour peut-être certains
ouais,
le font.
Ouais, mais non, c'est moins agréable.
C'est vrai? Et donc je mets tous les liens dans notre épisode. Jean-Charles, écoute, je te le redis encore une nouvelle fois, merci pour ton exemple aussi, parce que je trouve que c'est un bel exemple, et je répète, c'est ceux qui vont voir ton compte Instagram et tout, moi je trouve déjà que tu fais pas 50 ans, franchement, sois honnête, hein, ça c'est une chose, et puis c'est un beau projet, c'est une belle manière aussi d'envisager la vie, après un coup dur tel que vous l'avez vécu, je trouve que c'est un très beau message. Moi qui suis papa, quand tu m'avais parlé de ton projet, ça m'avait vraiment touché, parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on espère ne jamais vivre. Et
oui.
Voilà, donc c'était important aussi qu'on en parle de ton projet pour t'aider, pour soutenir. C'est aussi une manière à moi de soutenir. Je pourrais pas venir courir, hein, je suis désolé. Mais c'est aussi ma manière à moi de partager et d'encourager le plus de gens possible à venir te soutenir, à soutenir ce projet, pour toi, pour Léonie, pour d'autres enfants aussi qui ont ce genre de maladie, qu'ont des maladies, qui ont besoin de l'aide de gens autour, parce que c'est pas facile quand même, et pour les parents aussi c'est pas facile, on se rend pas compte de la difficulté du quotidien de tout ça, quoi.
Ouais, c'est super de pouvoir parler de mon projet comme ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Bertrand, c'est vraiment bien, et surtout continue d'être dans nos oreilles quand on fait du sport, quand on court, quand on transpire. Tu nous donnes des idées, tu vois, comme les 24 heures, ben, c'est en écoutant tes podcasts que j'ai eu l'idée. Continue surtout. N'arrête rien.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va finir sur ce joli mot. Je répète, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. On va suivre ça avec attention, de voir un petit peu. Et puis, si en partageant, s'il y a d'autres gens qui voudraient, parce que finalement, des sponsors un petit peu à droite à gauche qui pourraient venir t'aider, etc., pourraient le faire aussi, même s'ils sont pas de Morteau, hein. Vous êtes pas sectaire, j'imagine.
Ah oui, bien sûr. Hein? Pas du tout.
Voilà. allez soutenir ce projet-là. C'est un chouette projet. Je te souhaite, en tout cas, ce jour-là, j'imagine l'émotion qu'il y aura au départ.
Ouais, j'imagine aussi. Ça va être assez dur. Même émotionnellement, ça va être assez dur, je pense. Ouais.
Ouais. Donc, j'imagine au départ, j'imagine l'émotion aussi à l'arrivée, mais sont difficilement imaginables de savoir comment ça va se passer. Et ben voilà, je te souhaite en tout cas d'en profiter pleinement, parce que tu auras beaucoup travaillé, tu seras beaucoup entraîné. C'est à beaucoup, beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Et je te souhaite une très, très, très belle réussite. Et je te remercie encore pour tous les petits messages que tu as fait passer ce soir, aujourd'hui, dans cet épisode.
Merci beaucoup, Bertrand. C'était super. Merci.
Voilà. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nouvel invité ou pas, j'en sais rien. Je sais pas. C'est pas encore enregistré, c'est pas dans les tuyaux. Mais en tout cas, on se retrouvera bien mercredi prochain pour un nouvel épisode où on trouvera de l'inspiration, des bonnes idées, etc. pour bouger. Parce que je le redis, 95% des Français ne bougent pas assez. Et ben, nous, on fait partie des 5% qui bougeons, et on va continuer à le faire. Allez, sur ce status, une très 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 belle journée. Jean-Charles, à très bientôt.
Et merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.